Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 11 octobre 2024. La chef de Transition Québec, Jackie Smith, a fustigé le gouvernement Legault hier pour avoir imposé une date butoir au 15 décembre afin de ficeler le projet du tramway. Un délai serré selon plusieurs alors que des changements législatifs pourraient être nécessaires. En mêlée de presse, le maire de Québec, Bruno Marchand, s'est plutôt réjoui de l'annonce et y voit un engagement de la CAQ à mener rapidement à bien le projet.
C'est une bonne nouvelle qu'il y a une échéance. Pas d'échéance, ça aurait pu prendre du temps. Moi, je sens pas là-dedans que c'est une trappe. Au contraire, je sens la réelle volonté et en mettant une date, de dire bon, on peut pas étirer ça indûment, on peut pas dire ça va être le 15 janvier, puis peut-être le 15 février, c'est le 15 décembre, on a tout ce qu'il faut pour y arriver.
Mercredi, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a confié la réalisation de la phase 1 du projet de tramway à CDPQ Infra. Le réseau de transport de la capitale devrait ensuite être chargé de son exploitation. La Fédération du personnel de soutien scolaire FPSSC-SQ demande au ministre de l'Éducation de mettre en place un plan sur le civisme des élèves ainsi que des solutions pour contrer la violence envers le personnel de soutien scolaire. Selon des chiffres obtenus par la FPSSC-SQ à l'issue d'une demande d'accès à l'information, près de 40 000 personnes ont subi des actes de violence au cours des 5 dernières années. La presque totalité de ces actes ont été commis envers le personnel de soutien scolaire qui est en contact direct avec les élèves. Selon le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, SFPQ, le projet de loi 71 portant sur le régime d'assistance sociale est un échec en matière de lutte à la pauvreté et il continuera de miner les efforts d'accompagnement aux plus démunis. En commission parlementaire, le SFPQ a reconnu certaines avancées marginales tout en soutenant que le projet de loi ne s'attaque pas aux trois enjeux les plus urgents, la lutte à la pauvreté, l'accompagnement vers l'emploi et la dématérialisation des services au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. En tournée à Lévis dans le cadre de la campagne nationale « Renversons le poids de la précarité », la Fédération étudiante collégiale du Québec et l'Union étudiante du Québec, accompagnées des associations étudiantes de Québec et de Lévis, ont réitéré les solutions concrètes qu'elles proposent pour alléger le poids de la précarité financière, soit rémunérer les stagiaires, actualiser l'aide financière aux études et subventionner les initiatives contre l'insécurité alimentaire. Le Musée de la civilisation a remporté le prix Excellence de la Société des musées du Québec pour l'exposition « Unique en son genre ». Présentée de mai 2023 à avril 2024, cette exposition permettait d'explorer l'immense diversité des expériences liées aux identités de genre et mettait en lumière comment ces dernières se sont transformées dans le temps et selon les cultures, au Québec comme ailleurs. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. La forêt n'est jamais si bien mise en valeur, ni si distinctement belle, que lorsqu'on la voit depuis le milieu d'un petit lac au cœur de montagne qui s'élève de toutes parts depuis les berges. Car l'eau dans laquelle elle se reflète lui offre non seulement le plus beau premier plan imaginable, mais encore une frontière on ne peut plus naturelle et extrêmement plaisante. Là, sa bordure n'a rien de l'aspect brutal et imparfait qu'elle peut avoir à l'orée d'une zone déboisée par l'homme ou de champs cultivés. Les arbres ont tout l'espace qu'ils veulent pour se développer au bord de l'eau, et c'est bien vers elles qu'ils projettent toutes leurs branches les plus vigoureuses. Là, la nature a tissé une lisière naturelle. L'œil remonte par paliers progressifs, depuis les bas buissons de la berge jusqu'au plus haut des arbres. La main de l'homme y est fort peu visible. L'eau vient laper la rive exactement comme elle le faisait il y a 1000 ans. Les lacs sont toujours les éléments les plus beaux et les plus expressifs des paysages. Ils sont les yeux de la terre. Et lorsqu'on y plonge son regard, le spectateur mesure la profondeur de sa propre nature. Les arbres fluviatiles qui bordent les rives en sont les cils élancés, et les collines et falaises boisées environnantes, des sourcils qui les surplombent.
Faim de soif de vivre, le présent.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on aura un retour de notre invité de la semaine dernière, Luc Gosselin. On avait interrompu notre conversation la semaine dernière parce qu'une heure, c'était pas suffisant. On a décidé de faire une deuxième heure sur le revenu de base. En passant aussi, on a, je vais le rappeler à la fin de l'émission, on aura un cercle de discussion aux Amis de la Terre avec Luc Gosselin le 11 novembre prochain au local des Amis de la Terre, c'est-à-dire à la salle Michel Jourdan où se trouvent les Amis de la Terre, à l'édifice Frédéric Bac. Alors, avant d'aller avec Luc, bonjour Luc. Avant d'aller avec Luc, on va faire quelques annonces, revues de presse, lectures. D'abord, on a eu un café philo hier au café Le Moutasse, qui était très bien agréable, ça a vraiment bien été. On avait un beau sujet philosophique. Et oui.
Je témoigne de ça. J'étais là.
J'étais là. C'est ça. Ça s'est bien passé. On a eu des beaux sujets. On avait un sujet quand même qui porte à la philosophie. C'était sur le bonheur. Donc, c'était un sujet de base en philosophie. Là. Donc, ça a bien été. Puis, pour ceux que ça intéresse, on a un autre café philo vendredi, pas aujourd'hui, mais vendredi de la semaine prochaine. À la librairie La Liberté. Et pour pas qu'il y ait trop de gens, parce que si on a plus que 20 personnes, ça fonctionne mal. On demande aux gens de s'inscrire. Donc, il s'agit tout simplement, si ça vous intéresse, de téléphoner à la librairie La Liberté pour vous inscrire pour le Café Philo de vendredi prochain, 19h à 21h. Dans mes lectures, ma revue de presse cette semaine, j'ai un article intéressant dans Le Devoir de samedi dernier. C'est un article sur le méthane et les changements climatiques. Les zones tropicales humides provoquent une envolée des émissions de méthane. Des scientifiques craignent qu'une boucle de rétroaction climatique se mette en place. Au sortir de la pandémie de coronavirus, les climatologues ont sursauté. Les concentrations atmosphériques de méthane, le second gaz à effet de serre en importance après le CO2, bondissaient brusquement du confinement de l'industrie pétro-gazière. On se demandait est-ce que c'était l'industrie pétro-gazière, un phénomène climatique passager. Les scientifiques se sont mis à l'œuvre pour résoudre l'énigme. Quelques années plus tard, une hypothèse fait de plus en plus consensus pour expliquer cette envolée soudaine, la concentration de méthane, l'inondation des zones tropicales. C'est que les changements climatiques créent de la pluie. Il y a des zones tropicales qui sont encore plus humides. Puis quand on a de la matière végétale, de la matière organique qui décompose sous vide, ça fait du méthane. Depuis le début de la révolution industrielle, la quantité de méthane dans l'atmosphère a triplé. À lui seul, ce gaz a réchauffé la Terre de 0,6 degrés, qui est énorme. La majorité, 60 % du méthane, provient des activités humaines. Il exhume des exploitations de charbon, de pétrole et de gaz, mais aussi des rizières, des élevages et des dépotoirs. Le méthane d'origine naturelle, 40 % émanent surtout des zones humides. Ils se forment là où de la matière organique se décompose, comme je disais, en l'absence d'oxygène, comme dans les marécages, les mangroves, les tourbières, les marais salés. Et on pense que ça vient des zones tropicales humides. Une étude de la National Academy of Science montre que les zones humides tropicales ont nourri la hausse rapide de méthane entre 2020 et 2022, mais également l'augmentation plus modérée observée durant la décennie antérieure. Ces scientifiques associent l'envolée des émissions naturelles de méthane à deux régions, l'Asie et l'Afrique équatoriale, qui ont subi d'importantes inondations durant les années pandémiques, quand un épisode climatique, la Niña, accroissait la pluie. leurs conclusions sont tout à fait plausibles. Observe Michel Garneau, professeur de géographie à l'Université du Québec à Montréal. Il faut savoir que les changements climatiques assèchent les zones arides, mais peuvent aussi détremper les régions pluvieuses. En modifiant la distribution des précipitations, ils ont le potentiel d'amplifier les inondations dans les zones humides tropicales et donc d'accroître leurs émissions de métal, un cercle vicieux que les scientifiques appellent boucle de rétroaction méthane, zone humide. Alors ça, c'est un peu inquiétant. Par contre, on a une nouvelle positive dans ça. C'est surprenant, c'est que pendant des années, on parlait de la bombe de méthane qui pourrait exploser dans les régions arctiques. En ramollissant le pergélisol, devait laisser libre cours aux microbes dans ces boues. Et ces microbes généraient des millions de tonnes de méthane. Or, les spécialistes commencent à douter que cela se produira. On n'est plus certain du tout, explique Mme Garneau, qui étudie les écosystèmes nordiques. La raison, l'Arctique est en train de verdir. La chaleur et la pluie accélèrent la croissance des plantes dans les tourbières, ce qui favorise le stockage du carbone. La nouvelle étude publiée dans le PNAS montre d'ailleurs que les émissions de méthane des hautes altitudes nordiques ont diminué en 2020 et 2022. Donc ça, c'est bonne nouvelle parce que c'est inquiétant. Le dégel du pergélisol qui se produit maintenant, on dit que probablement qu'on n'aura pas une bombe méthane de ce côté-là, mais par contre, on a de quoi là, du côté des zones tropicales. Cet article-là, comme je disais, c'était dans Le Devoir de samedi dernier, un texte d'Alexis Riopel, page A10. Dans Le Devoir de lundi, dernier, 7 octobre, page B5, faut-il bannir les sous-sols? On rappelle encore l'idée que les Québécois sembleraient, même si c'est un peu particulier, notre utilisation des sous-sols. Ailleurs dans le monde, on ne fait pas ça, ou on n'a pas de sous-sol. Nous, c'est parce qu'on doit avoir un sous-sol à cause du... Quand on fait les fondations, on doit se rendre jusque dans la zone où ça ne gèle pas. Donc, on se fabrique des sous-sols, puis comme l'Association des constructeurs d'immeubles dit, c'est du pied carré qui n'est pas trop cher. Mais on va devoir revoir ça. Peut-être pas partout. Là, ils disaient que peut-être que dans certains endroits qui sont peu propices aux inondations, on va continuer à habiter les sous-sols. En tout cas, c'est un article intéressant. Faut-il bannir les sous-sols? Un texte de Jeanne Corriveau dans Le Devoir du 7 octobre. Finalement, dans Le Devoir de mardi 8 octobre, page A3, un texte d'Alexandre Shields. Québec consacre plus de 900 millions à la protection de la nature. Le gouvernement a dévoilé lundi son plan pour arriver à protéger 30 % du territoire d'ici 2030. Alors, ça, c'est une nouvelle intéressante. Puis on parle même de protéger des zones dans le sud parce que auparavant on disait on protège du territoire, mais c'était dans les zones... Dans le nord, dans le nord, finalement, on exploite moins les forêts. Là. C'est dans le sud qu'il faut protéger plus. Là. Alors, on le voit avec le caribou, les zones plus au sud. Là. Et c'est toujours mitigé, mais quand même, les gens de Nature Québec ont dit que le plan nature présenté aujourd'hui est globalement cohérent, mais vitiamment l'enjeu de la gestion des forêts. Une réforme du régime forestier est essentielle si Québec souhaite véritablement protéger la biodiversité et doit s'accompagner d'un plan de transition juste co-créé avec les différentes parties prenantes afin de soutenir les travailleurs qui pourraient s'en trouver impactés. Fait valoir Marie-Audrey Nadeau-Fortin, analyste biodiversité chez Nature Québec. Alors, on est quand même content. C'est 900 millions, c'est pas rien pour la protection de la nature. Mais il reste encore des choses à clarifier puis à voir de ce côté-là. Toujours, pour terminer là, dans mes lectures, là, le dernier Philosophie Magazine qui était en kiosque, qui était quand même intéressant. Entre autres, là, ben, je vous ai parlé hier, la semaine dernière, de un article, Peter Singer, qui est à l'origine là, de l'idée des droits des animaux, là, du respect de la vie animale. C'est un bon texte. Et on parle du véganisme là-dedans, qui est en fin de compte la position la plus éthique par rapport à ça. Mais il y a quand même entre les deux là, des choses qu'on peut faire pour avoir un comportement éthique là, par rapport aux animaux. Et dans le dossier de la démocratie, plusieurs textes sur la démocratie. C'est bien fait, c'est un bon numéro. Puis c'est très d'actualité, la démocratie, on voit que c'est difficile ces temps-ci. Il y a une perte à cause, entre autres, de toutes sortes de facteurs, notamment l'affaiblissement des médias traditionnels, les journaux qui disparaissent, c'est un des piliers de la démocratie. Puis la désinformation qu'on a sur les médias sociaux. En passant, il y a Harari qui a écrit Sapiens, vient de sortir un nouveau livre, le Nexus, qui parle justement de ça. Les Nexus, ça veut dire les réseaux de communication, les réseaux d'information, que j'ai commencé à lire, qui est vraiment intéressant. Je vais revenir, parce que je suis en train de lire, je vais revenir dans les prochaines émissions là, sur ce livre-là, que je vous recommande. Dans le Philosophie Magazine, entre autres, il y a un petit texte sur Tocqueville. Tocqueville était vraiment visionnaire. Alexis de Tocqueville, qui est venu au Canada, il est venu en Amérique, qui a écrit un célèbre texte sur l'histoire des États-Unis, dans le fond, et sur la démocratie, qui s'appelle « La démocratie en Amérique ». Et on dit Alexis Tocqueville, c'était un aristocrate, mais il était démocrate. Alors, il dit Alexis de Tocqueville, nostalgique de l'ancien régime, mais convaincu que l'histoire ne remontera pas en arrière et que l'avenir se trouve en Amérique, a eu un vrai temps d'avance sur ses contemporains. Il a compris avant tout le monde que le confort démocratique comportait un risque, celui de nous rendre complètement indifférents à l'intérêt collectif. À ce sujet, il a livré un passage visionnaire dont la justesse n'a cessé de se vérifier avec la montée en puissance de l'individualisme libéral et de la société de consommation. Si chacun est préoccupé par le nombre de likes que son dernier post récolte sur Facebook ou Instagram, par sa série Netflix ou sa partie de jeu vidéo en cours, par l'organisation de ses vacances et l'anniversaire de son meilleur ami, la chose publique est délaissée. Tant et si bien qu'il devient possible de renier sur les libertés et les droits, voire de négliger la promesse d'égalité pourtant inhérente aux nations démocratiques, sans que personne ne s'en émeuve.
Si tu permets, Jacques, oui. J'ai lu la démocratie en Amérique, là, puis c'était absolument étonnant. Parfois, là, tout à coup, on a l'impression de lire de l'actualité. On comprend mieux les États-Unis après avoir lu ce livre.
C'est un grand visionnaire, Tocqueville. C'est un grand texte, c'est pourtant écrit au 19e siècle, sur la démocratie. Même, je dirais que c'est un des meilleurs textes qu'on peut lire si on veut comprendre la démocratie. C'est la démocratie en Amérique.
Oui, absolument.
Et on va justement aller à une pause musicale, puis on va en reparler avec Luc des inégalités, là, justement.
Oui.
Alors, à tantôt. Plus.
La légèreté quitte un matin en sautant dans le premier train et pas sans même nous envoyer la main. Lorsque l'on arrive sur le quai pour tenter de la rattraper, on sait trop bien que le glas sonnait. Comme il faut aller quelque part, on regarde l'heure des départs. Thank you.
les années passent, file la vie. On prend l'essentiel pour acquis. La légèreté n'est plus que nostalgie. Et on s'attarde de moins en moins aux beautés le long du chemin, à force de courir après le train. Alors avant que l'on s'épuise, et rester assis sur le quai pour regarder le train passer en retrouvant un peu de légèreté.
C'était le Train de vie des Cowboys Fringants, la pièce Train de vie de l'album L'Expédition. Alors, bonjour Luc.
Bonjour.
Luc Gosselin qui est de l'organisme de revenu de base Québec.
Oui.
Et en passant, on va tout de suite donner les coordonnées de l'organisme pour ceux qui voudraient approfondir.
C'est simple comme bonjour, c'est revenudebase.québec.
Revenudebase.québec.
C'est ça.
Puis c'est un site, puis vous avez beaucoup de.
C'est ça. Parce que ben, on a pris l'URL .québec, là, c'est disponible.
Hein? OK.
Et puis ça faisait revenudebase.québec, revenudebase.québec.
OK.
C'est facile. On tombe sur le site de revenudebase.québec facilement quand on tape revenudebase.
Parfait. Alors, on va poursuivre notre conversation de la semaine dernière sur le revenu de base. À la fin, où on peut commencer par ça, si tu veux, on peut aussi donner quelques titres intéressants.
Ah oui, peut-être, c'est ça. On donne sur le site, dans l'onglet « Découvrir », dans les livres, on parle de certains livres comme ça, intéressants à lire. Il y a aussi des vidéos qu'on peut visionner, des articles, toutes sortes de choses. C'est l'onglet « Découvrir ». Alors, donc, c'est facile de le trouver. Et bien, j'ai amené d'ailleurs, puis je t'ai montré tout à l'heure, il y a un petit livre très intéressant qui est très, très orienté québécois. C'est de Pierre Dubuc, ça s'appelle Le droit au revenu de citoyenneté. Et puis en même temps, c'est intéressant de se souvenir que le revenu de citoyenneté, c'est un des noms du revenu de base. On dit revenu minimum garanti, on dit revenu universel, on dit toutes sortes de choses, là. Mais revenu de citoyenneté, c'est une façon d'appeler le revenu de base.
D'ailleurs, j'aime bien cette terminologie-là, le revenu, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'en tant que citoyen, on devrait tous avoir un revenu juste par le fait qu'on est citoyen.
Tout à fait. Donc, Pierre Dubuc, ça se trouve. Moi, je l'ai depuis un bout de temps. Puis, une autre, concernant ce nom-là, c'était dans le titre du livre de Michel Bernard et Michel Chartrand. Évidemment, les plus jeunes parmi nous ne connaissent pas nécessairement Michel Chartrand, mais c'est un syndicaliste très, très, très connu, très, très, très actif au Québec.
À la fin du 20e siècle.
Fin du 20e, début 20e, c'est ça, là. Et puis, donc, il appelait ça le revenu de citoyenneté, lui aussi. Et c'était un des noms qu'on donnait au revenu de base à cette époque-là. Et il l'a fait avec Michel Bernard, un professeur au HEC. Alors, c'est un syndicaliste à tout craint, là, à la gauche, avec Bernard, donc un comptable, un professeur au HEC, donc avec cette espèce d'angle-là. Et c'est vraiment un très bon livre. On peut le trouver à la bibliothèque facilement. Là. Et,
c'est quoi le titre encore?
Ça s'appelle « Manifeste pour un revenu de citoyenneté ».
OK.
Donc, Michel Chartrand, Michel Bernard. Je ne sais plus où c'était publié. Là. C'était l'autre journal qui avait publié ça. Un livre, c'était en 1999.
OK.
Alors donc, c'est intéressant parce que c'est le point de vue québécois, mais en même temps, extrêmement bien documenté sur l'idée générale. C'est vraiment un très bon livre. Mais aussi, un livre extrêmement intéressant, c'est François Blais, l'ex-ministre, qui a fait un livre qui s'appelle « Un revenu garanti pour tous ». C'est aux éditions du Boréal. Là aussi, c'est très, très bien documenté, très bien fait. Et une des choses, juste pour finir là-dessus, Ambre Fourier, a transformé en livre une maîtrise au HEC. Et sur le revenu de base, c'est le revenu de base qui est en question. Alors, avec un aspect plus objectif, mais très bien documenté aussi, puis avec une orientation décroissance.
Ça date de quelle année, celui-là?
Alors, ça, c'est plus récent. Ça fait 4 ans, 5 ans que ça a été publié, maximum. Là. C'est ça, là. Donc, en tout cas, c'est chez Éco-Société.
OK.
C'est 2019.
2019. Ambre
Fourier.
Fourier. D'accord.
Alors, extrêmement intéressant. Tu aimerais l'avoir en entrevue
éventuellement. Ben oui.
Si elle vient à Québec.
Une bonne invitée.
Oui. Oui.
Bon. Alors, on avait peut-être abordé l'idée, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, de Piketty puis des inégalités de revenus. Là.
C'est ça. Ben, parmi les gens qui ont parlé du revenu de base favorablement, avec une espèce de prestige international sur l'économie, Piketty fait partie de ces gens-là. Il a dans son livre « Le capital au 21e siècle » et dans un autre livre qu'il a suivi aussi, qui était plus sur, général sur la société, et dernièrement, Brève histoire de l'égalité.
Exactement. Brève histoire de l'égalité.
C'est son dernier livre. C'est extrêmement intéressant.
Oui.
Le côté intéressant de ça, bon, il mentionne le revenu de base là-dedans, quelque part. Puis il mentionne aussi une sorte de revenu de base important par un capital qui serait donné à 18 ans à tout le monde. En tout cas, bon, il y a un point de vue très particulier. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé de ce livre-là, c'est que ça nous fait penser. Ça nous fait ne pas oublier que dans l'histoire de l'humanité, même si on se plaint des inégalités actuelles, avec raison, absolument avec raison, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un côté positif, il y a un côté optimiste, disons, là, dans ce livre-là, qui montre que l'égalité a augmenté constamment depuis 2 ou 3 siècles de façon extrêmement importante. Et alors donc, ça, comment dire, c'est reprendre nos rapports par rapport à notre... reprendre l'idée de l'égalité des inégalités dans une perspective plus optimiste, sur laquelle il faut travailler, bien sûr, parce qu'il y a plein d'inégalités, mais c'est moins désespérant, en tout cas, tu sais, c'est
ouais. Mais il y a un tableau que j'essaie de retrouver dans lequel il parle des États-Unis.
Oui.
Et là, c'est terrible. C'est qu'il monte dans les années... il est ici, le tableau, là. où on avait vraiment un système d'imposition que je dirais très progressif. Quand on dit progressif, ça veut dire que les riches payent plus d'impôts que les pauvres. C'est tout simplement ça. Et dans les années 30-40, c'est après la crise économique, les 1%, les 0,01% les plus riches payaient jusqu'à 80% d'impôts.
Ça a été à 93% sous Eisenhower.
Ah oui?
Oui.
Mais là, son tableau, je vois, en tout cas, il monte pas. Mais c'était énorme.
C'était sur les top dollars. Là, quand
puis les moins riches ne payaient pas 10% d'impôts à cette époque-là. Mm. Et là, on voit ça, là, que les impôts des riches diminuent. Puis aujourd'hui, là, en 2020, on voit que les plus riches là, payent à peu près le même taux d'imposition que les moyens.
Ah ouais, les 10% du haut, les 10% du bas, là, il y a toujours des comparaisons de
ouais,
ce type-là.
Oui, les impôts des plus pauvres ont augmenté, à peu près augmenté depuis les années 20, tandis que les impôts, quand on passe le taux d'imposition, a diminué pour les plus riches de façon importante. Là.
C'est pour ça que moi, je me résume un peu l'idée du revenu de base de la façon suivante, c'est que l'argent, le revenu, la monnaie, l'argent, est devenu un bien public. en quelque sorte. C'est-à-dire que faudrait mutualiser, en quelque sorte, notre richesse pour mieux la diviser, pour mieux la répartir entre les gens. Parce que c'est en train de, l'écart est en train de gagner. Et puis, on est en train de revenir au moment où, dans l'histoire, selon ce que j'ai retenu du livre de Piketty, c'est que c'était au tournant du 19e et du 20e siècle qu'il y a eu la plus grande inégalité en Occident. Parce que c'était l'industrialisation qui en a créé une grande partie. Et on l'oublie très souvent, la colonisation est un instrument de richesse extraordinaire pour l'Occident. Alors donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les plus grands écarts en Occident, en tout cas. Mais c'est ça, donc, le revenu... Puis je voudrais prendre ça d'une autre façon aussi, si tu permets, c'est que ça a été une sorte de petite révélation que j'ai eue à un moment donné, un prof de l'Université d'Ottawa qui me demande de rencontrer ses étudiants qui étudiaient le rapport à l'aliment, ouais, à l'alimentation. Et puis là, je me suis dit, bon, pourquoi est-ce que qu'on m'invite à faire ça? En tout cas, je parle du revenu de base avec n'importe qui. Puis là, en y repensant, je me suis rendu compte, j'ai pensé, regardez, combien de pourcentage de personnes vivaient en ville maintenant par rapport au passé. C'est à peu près le contraire. Tu sais, je pense qu'il y a 10 ans à peu près, c'était 72-75% des gens vivaient en ville, en Occident, alors que c'était à peu près le contraire une centaine d'années avant. En ville, tu ne peux pas avoir de jardin. Tu ne peux pas faire pousser ta nourriture. On a besoin d'argent. On ne peut pas vivre sans argent. Alors donc, l'idée d'un revenu de base, c'est trouve là une de ces valeurs fondamentales, en quelque sorte. Il faut se mettre à distribuer mieux notre richesse. Le revenu de base le permettrait.
En partant en soi, là, dans le fond, le revenu de base, c'est pas si, il y a un petit risque, mais c'est pas si risqué que ça parce que on donne le revenu de base à des gens. Si les gens ils ont seulement le revenu de base pour vivre, ils vont tout le dépenser à l'intérieur de l'économie.
Absolument.
Donc, ça va même aider à faire rouler l'économie, là. Fait que c'est pas si risqué que ça, là, dans le fond. Puis les plus riches vont leur donner un impôt.
Absolument. Ben oui, ça alimente la... dans la conversation avant l'émission, tu rappelais qu'est-ce qui s'est passé à la COVID. Tout à coup, il y a eu un revenu de base qui a été distribué à une très grande partie de la population. Et ça a pas nui à l'économie, là. Au contraire. Ça a permis à l'économie de continuer de tourner. Et puis, le Canada n'est pas le seul endroit au monde qu'on a fait ça. On l'a fait aux États-Unis, on l'a fait en Occident, on l'a fait même dans des pays africains et en Orient aussi. Alors donc, le rapport à l'argent, là, il est pas si simple que ça. Là. C'est pas la simplicité du revenu d'une famille. Là. Ça n'a rien à voir. Les sociétés, le rapport...
Ça, les gens confondent les finances public, puis les finances d'un individu, puis ce qui... Les États ont des outils que l'individu n'a pas. Et ces outils-là lui permettent de faire des choses surprenantes comme on a vu la pandémie, où le gouvernement canadien a littéralement imprimé 500 milliards là, pour la pandémie. C'est incroyable. Là, que... Et... ben, c'est ça. Même malgré tout, La dette, les États, il faut les comparer avec la grosseur de l'économie. La dette canadienne, malgré tout, est quand même raisonnable.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les tenants du revenu de base, on s'est dit à ce moment-là, « Eh, Seigneur, s'il y avait un revenu de base, la distribution aurait pu être rapide, la distribution de l'argent, et plus égale. » Parce que là, c'est seulement ceux qui avaient travaillé, hein? Qui avaient gagné au moins 5 000 $ l'année précédente, qui pouvaient avoir... Alors, ceux qui n'avaient rien gagné ou peu gagné, bien, ils n'avaient pas de revenu, ce revenu de base-là. Mais si ça avait été instauré déjà, bien, la structure administrative aurait été disponible pour faire rapidement une distribution d'argent, et là, plus égalitaire. Enfin.
Oui,
Oui. On a besoin d'avoir un revenu de base à nos sociétés.
Oui, ben, c'est ça. C'est ça.
Avec des collègues de l'Est du Québec, où il y a un projet qui est en train de se développer, l'Alliance Revenu de base des régions Est, de plus en plus, on appelle ça l'assurance revenu. On va probablement se publiciser un projet là, où le revenu de base s'appellera assurance revenu. Dans l'esprit de l'assurance maladie. Quand tu es malade, tu as l'assurance. Quand tu n'as pas de revenu, tu as l'assurance d'un revenu. Déterminé selon les besoins là, sociaux normaux. Alors donc, l'esprit d'assurance est une bonne façon de mieux comprendre ce que c'est qu'un revenu de base. À quoi ça servirait? Pourquoi c'est utile? Pourquoi ça serait même nécessaire, étant donné l'importance du revenu dans nos sociétés? On ne peut pas vivre sans revenu. Bon. Et toutes sortes de circonstances peuvent faire qu'on n'en a pas. Bon. Et ça ne dépend pas des personnes. Et d'ailleurs, une chose qu'on pourrait aborder peut-être un peu dans le reste de l'émission, c'est le rapport avec l'emploi. Parce qu'on a un programme de revenu de base au Québec, hein? Mais c'est un programme de revenu de base pour les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. On a beaucoup d'hésitation à ne pas à enlever le lien entre l'emploi et le revenu.
Oui, parce que c'était un peu un tabou, là.
Absolument, ouais, absolument.
Ouais. Mais écoute, si tu dirais qu'on prendrait une petite pause musicale, mm-hmm. puis au retour de la pause, on pourrait parler de ça, le lien entre le revenu de base et l'emploi.
C'est extrêmement important.
Un jour dans un village, quelqu'un s'est mis à vendre du pain. On venait de sauver de l'ouvrage, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Puis quelques temps après, la farine livrée à la ville, et puis vendue à la livre, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le blé porté sur les marchés du monde, le prix qui monte sur le dos de la demande. Ils ont breveté les semences, on sait plus par quelle botte s'y prendre pour manger. Plus tard, suivant la ligne, on a mis l'eau dans les bouteilles, puis les rivières dans les turbines. Tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. On bouche les trous avec des clous, l'argent du pain, l'argent du beurre, puis la chèvre et puis le chou, puis tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le bénéfice a mis sa main dedans le doute, la terre qui tourne peut même plus joindre les deux bouts. À 4%, on te remercie, puis pour le reste, il y a vas-y, faut payer. De l'indécence, si tu veux être, faut que tu dépenses. La bourse mouline sur la confiance, tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien. Un petit peu moins pour un petit peu plus cher, au profit notre laisser-faire, attendre jeudi pour le nécessaire, tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien. À la santé de la croissance, de la croissance. On laisse dormir l'amour dans les petites avances. L'incalculable a rendu l'homme, mais le silence, notre silence, puis la fin de notre silence, c'est combien? C'est combien?
Ah,
Alors, c'était la belle chanson appropriée.
Complètement appropriée.
De Luc, de Fred, Fred Pellerin. C'est combien? C'est dans l'album Plus tard qu'on pense.
C'est le que c'est que c'est ça. C'est le musée.
Oui, ça continue. Ça continue. Alors.
Oui, c'est extraordinaire, ça. Oui. Ça dit d'une autre façon l'important. Oui. Mais c'est ça, donc, le lien avec l'emploi. La grande réticence générale face au revenu de base, c'est vraiment donc c'est l'emploi. C'est-à-dire que, bon, de diverses façons. C'est, bon, la crainte que les gens vont arrêter de travailler s'ils ont un revenu de base. C'est automatique. Les gens disent, mais les gens vont arrêter de travailler. Bon. C'est premièrement, quand on pose la question aux gens, on dit, est-ce que les gens vont arrêter de travailler s'ils ont un revenu de base? Ben oui, 80%, en tout cas, beaucoup de personnes vont arrêter de travailler. Et vous? Ah ben non. Ben, ce serait pas assez, puis j'aime mon travail, puis bon. Alors donc, on pense que les autres sont plus paresseux qu'on est. Et que ça compte pour beaucoup, d'une part. Et d'autre part, et là, donc, au niveau plus... Ça, c'est un peu au niveau moral, si on veut, mais au niveau purement économique, les gens qui emploient des gens se disent, ben, ça va me coûter cher. Hein? Il va falloir que j'augmente le salaire que je donne si je veux attirer des gens, là. Alors, donc, au niveau économique, on dit rapidement, non, ça va briser l'économie. L'économie va arrêter de tourner convenablement parce que les gens vont arrêter de travailler ou vont vouloir travailler à beaucoup plus cher qu'ils travaillent maintenant. Ce qui n'est pas bête. Ça se peut bien que si tu es capable de dire non à un travail qui ne te plaît pas, ben là, tout à coup, la pression se fait. Mais bon, c'est bien connu que les gens qui travaillent au salaire minimum 40 heures semaine n'y arrivent pas. Tu sais, ça ne marche pas, surtout si tu as une famille. Là, c'est, en tout cas, bon. Alors donc, le salaire n'est pas assez élevé en ce moment. C'est sûr qu'il y aura une pression là-dessus. Mais c'est surtout très moral. C'est-à-dire qu'on pense que Saint Paul, il y a longtemps, là, disait que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est le fait. Puis aussitôt que quelqu'un ne peut pas travailler, ah ben, vraiment? Est-ce que vraiment qu'il n'est pas capable de travailler? Voyons donc, c'est un manque d'initiative, c'est une sorte un peu de paresse ou un peu de comment dire, d'inintelligence quasiment, non, quelque chose comme ça. Alors, il y a un ostracisme face aux gens qui ne peuvent pas travailler. Et puis, il y a tous les gens qui ne peuvent pas travailler à cause de problèmes de santé mentale qui sont complètement à gérer, là. Et puis, souvent temporaires. Dans la vie de quelqu'un, comme l'absence de revenus. Et c'est très souvent temporaire dans la vie d'une personne, là. Alors donc, on attache des choses à l'emploi de deux ou trois façons complètement, presque inégalitaires et d'a priori qui ne tiennent pas la route. Donc ça bloque beaucoup la réflexion sur le revenu de base, ce type de choses-là.
Mais il y a toute une réflexion, justement, par rapport au travail qui s'associe à ça, parce que, dans le fond, on a besoin de travailler. Travailler, c'est une façon, ça fait partie des biens de la vie de travailler. Le problème, c'est de trop travailler ou de faire quelque chose qu'on n'aime pas ou qui est dévalorisant, là. D'ailleurs, on parlait de Graeber, c'est lui qui écrit le livre sur la dette, là, Michael Graeber.
David
Graeber, oui. Qui écrit le livre, là, Bullshit Jobs, qui dit, oui, combien de gens ont des emplois qui sont inutiles, là, et sont payés pour faire quelque chose qui sert à rien, là.
C'est parce que les êtres humains ont besoin de se sentir utiles, de se savoir utiles, parce qu'on est des bêtes sociales. On tire toute notre valeur dans de nos interactions. Est-ce que nos interactions sont bonnes avec les autres et tout ça, là? Les interactions proches, famille et tout ça, amis, et puis plus large aussi, là, au niveau du travail et tout ça. Alors donc, c'est extrêmement important. On est des bêtes sociales, c'est comme ça, là. Et puis vraiment, être utile et le sentiment d'être utile. Parce que le livre de Graeber là, sur Bullshit Jobs, c'est drôle parce que c'est beaucoup le sentiment d'être, le sentiment de faire un travail de bullshit. Là. Ça dévalorise les personnes qui vivent ça parce qu'ils ne se sentent pas utiles. Ils savent, même parfois, ils savent que leur travail, en fait, non seulement n'est pas utile, mais même dangereux et même mauvais. Mais bon, ils sont pris dedans, ils ont une hypothèque à payer, il faut qu'ils ne peuvent pas perdre leur job. Et ça mine. Ça rend malade. Ça rend carrément malade, là, physiquement. Alors donc, c'est ça, c'est le sentiment d'être utile. Et puis donc, s'il y avait un revenu de base, les gens donc pourraient sortir de l'emploi un petit peu plus, pas à volonté, mais en tout cas plus facilement. Et puis, ça les ressourcerait pour être capable pour retourner au travail. En tout cas, ça devient... Parce que là, tout à coup, le besoin social d'être utile, de se sentir utile et tout ça, reprendrait le pas dans leur vie. Alors, c'est sûr que ça ferait plus de gens heureux de travailler.
Puis, ça réduirait probablement le temps de travail parce que...
Oui.
tu parles des emplois à salaire minimum, mais... À ce moment-là, d'abord, ça enlève un peu de pression sur l'employeur parce qu'il sait que son revenu qu'il donne vient se rajouter au revenu de base.
Exactement.
Donc, là, la personne est moins précaire. Là.
Oui.
Et elle peut, à ce moment-là, se permettre. Même qu'il y a certains emplois à revenu minimum qui sont intéressants, c'est juste qu'ils sont pas assez payants. Alors, les gens pourraient travailler 3 jours semaine tout simplement parce qu'ils ont besoin de faire quelque chose. Et il y aurait ce qu'il faut pour vivre. Et même, ils bonifieraient leur revenu de base parce qu'avec le 3 jours, même au salaire minimum, ça leur donnerait une marge de manœuvre. Et comme nous, en Saint-Petit volontaire, on parle toujours de la semaine de 4 jours, mais avec le revenu de base, on pourrait avoir la semaine de travail de 3 jours pour beaucoup de gens. Et quand on fait ça, on donne du temps aux gens. Et le temps... Ça permet de s'investir dans des choses comme le communautaire, comme s'occuper d'un jardin, s'occuper de nos enfants, s'occuper des malades. Il y a plein de choses utiles qu'on pourrait faire avec ce temps-là qu'on redonne. Là.
C'est, ça me permet de dire que le travail, c'est pas rien que le travail rémunéré. Tu sais, on a tendance à associer travail à salaire. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui se fait absolument utile et nécessaire, qui n'est pas rémunéré, qui n'a pas à l'être non plus. Et puis c'est tout le côté proche aidant qui serait plus flexible dans la vie d'une personne. Et donc le rapport à ses proches serait d'un autre ordre là, à ce moment-là. Parce que... Une chose extraordinaire, quelqu'un à qui je parlais avec de revenus de base, dont la fille est sur le programme de revenus de base, assez jeune, parce que ça a été parmi les premières personnes qui a eu le programme de revenus de base à cause de problèmes de santé mentale, parce que c'était son problème. Quand elle s'est mise à recevoir ce salaire-là, ce revenu-là, son rapport à sa famille était complètement différent. Parce qu'avant, elle était complètement...
Stigmatisée,
oui, au sein même de sa famille. Parce qu'elle était celle qui
assistée sociale.
C'est ça, familiale, sociale.
Oui. Oui.
Alors donc, là, tout à coup, elle avait un revenu, donc elle pouvait participer à avoir de l'argent à elle à dépenser, pas de l'argent des autres, là, pas de l'argent de ses parents. Alors il dit, donc c'est son père, là, il m'a dit, ça a changé sa vie à sa fille et son rapport à la famille. Alors donc, c'est un élément, ça. Et puis donc, les prochains, n'oublions pas le côté proche aidant. Ça augmenterait la quantité de gens qui peuvent, pendant une certaine période de leur vie, 3, 4, 5 ans, consacrer du temps, plus de temps, dans le bien-être aussi, là, sans trop de pression, sans le besoin.
Ou avoir des enfants, de la famille.
Ben,
ou...
Par exemple, c'est ça, tout à fait.
Oui.
Et pas seulement pour les femmes. C'est pas seulement donc des soins de femmes pour ce qui concerne les enfants. Là. Donc, un meilleur partage.
Puis le rapport au travail serait plus sain, parce que ça serait pas associé à quelque chose, une obligation de gagner de l'argent. Ce serait tout simplement un lien qu'on a besoin de travailler, qu'on a le goût de travailler, puis bon, on a une rémunération. Et nous, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de ça l'an dernier, c'est que ça changerait les valeurs de la société. On a un changement. S'il y a un changement important à faire, c'est un changement que je dirais culturel. Et on met beaucoup d'emphase sur l'argent, la valeur principale, alors que la qualité de vie est associée aux valeurs qu'on dit non matérielles ou post-matérielles. Et les valeurs post-matérielles, c'est ça la simplicité volontaire, c'est que on met moins d'emphase. C'est pas qu'on élimine le matériel, mais on monte plus haut dans la pyramide de Maslow, comme on dit. Là.
Oui.
Et ces besoins-là deviennent finalement ceux qui sont privilégiés. Puis dans un contexte de revenus de base, on irait, je pense, on progressivement, on opérait un changement dans les valeurs, un changement culturel. Là.
L'une des images qu'on aime bien mentionner concernant le revenu de base, c'est que c'est pas un filet, c'est un socle. C'est un socle à partir duquel on vit avec les autres. C'est pas un filet, parce qu'un filet, c'est on tombe dedans, là, hein? Puis on sait que ce filet-là, le filet social actuel, il est bourré de trous, avec donc on se retrouve en plus bas, et avec plein d'injustices, là. Alors, donc, c'est ça, c'est le sens. C'est probablement, pour nous, c'est l'initiative sociale majeure possible du 20e siècle, du 21e siècle.
Mais Luc, on approche de la fin de l'émission. encore une fois, on n'a pas eu assez de temps, mais... en tout cas, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, mon invité, c'était Luc Gosselin de Revenu de base Québec, que vous pouvez trouver en ligne. L'organisme a un site Internet.
Revenubase.Québec.
Revenubase.Québec. Et pour ceux qui s'intéressent, si on voulait poursuivre l'échange avec Luc, on aura un sac de discussion le 11 novembre prochain. Au Centre Frédéric Bach, c'est organisé avec les Amis de la Terre. Donc, vous avez seulement qu'à aller sur le site Internet des Amis de la Terre pour avoir les coordonnées de l'événement. Le 11 novembre à 19h, on aura un échange, cercle de discussion avec Luc Gosselin sur le revenu de base. Alors, merci encore, Luc. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Bonne journée.
Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Plusieurs infections respiratoires et virus circulent en ce moment. Vous pouvez protéger votre santé et celle des autres en posant des bons gestes, comme vous lavez souvent les mains, en restant à la maison si vous faites de la fièvre, et en portant un masque si vous devez absolument sortir. Si vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, appelez InfoSanté 811 ou consultez en pharmacie pour savoir comment vous soigner à la maison. Informez-vous sur les options autres que l'urgence sur québec.ca/accès-santé. Un message du gouvernement du Québec.
Monde musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Monde musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
CKIA, le journal.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 11 octobre 2024. La chef de Transition Québec, Jackie Smith, a fustigé le gouvernement Legault hier pour avoir imposé une date butoir au 15 décembre afin de ficeler le projet du tramway. Un délai serré selon plusieurs alors que des changements législatifs pourraient être nécessaires. En mêlée de presse, le maire de Québec, Bruno Marchand, s'est plutôt réjoui de l'annonce et y voit un engagement de la CAQ à mener rapidement à bien le projet.
C'est une bonne nouvelle qu'il y ait une échéance.